quand les Bouddhas Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Dans cette orientation d'éveil et cette motivation de bienveillance, nous abordons aujourd'hui, dans le cadre du Mahayana, la voie universelle, sa dimension d'ouverture et de compassion, et particulièrement Shamatha Vipassana, chapitre 6. Shamatha Vipassana sont les noms sanskrits pour ce que l'on nomme communément en Occident la pratique de la méditation. Nous avons vu que la méditation, les exercices spirituels, sont la cinquième des six vertus parfaites, les six paramitas. Shamatha, en tant que stabilité de l'esprit, est particulièrement connectée à la cinquième, et Vipassana, en tant qu'intelligence, compréhension de la nature de la réalité, de la nature de l'esprit, de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, est connecté particulièrement à la sixième paramita. Mais Shamatha et Vipassana constituent un ensemble et constituent ensemble les exercices spirituels, les pratiques, l'entraînement sur intérieur, l'entraînement de la voix. Et ce sont ainsi ces deux pratiques complémentaires que nous allons aborder. Vajradhara Kalwambache nous dit: la méditation est l'outil qui permet de reconnaître la nature de l'esprit, de ses pensées et de ses passions, et ainsi de gagner la paix, le bonheur et la liberté. Donc nous avons là une définition de la méditation comme un outil, le moyen de la progression spirituelle, le moyen de la transformation personnelle, un outil ou une approche qui nous permet de reconnaître la nature de notre esprit, ce que nous sommes, et aussi la nature de cet esprit qui expérimente et qui vit toutes choses, c'est-à-dire aussi la nature de la réalité et la nature de nos pensées et de nos passions, émotions, et dans cette intelligence de gagner la paix, le bonheur et la liberté. Le terme méditation peut être discuté, il n'est pas tout à fait approprié pour parler de ce dont il s'agit, car méditation en français véhicule l'idée d'un travail intellectuel, d'une réflexion profonde, alors que méditation, tel qu'il est entendu dans le contexte de la voie du Bouddha, et globalement l'ensemble des exercices spirituels qui stabilisent l'esprit, qui nous permet de pratiquer avec nos pensées, nos émotions, de transformer notre relation à celle-ci, de nous en libérer, de trouver un état intérieur de paix, de repos, de liberté et de comprendre ce que nous sommes. Donc le champ de cette pratique est immense. C'est à cause d'un manque d'attention à ce qui arrive réellement quand l'esprit pense ou s'émeut que les vivants sont prisonniers et finalement qu'ils souffrent. Donc c'est un manque d'attention, un manque de mindfulness, un manque de présence à ce qui arrive réellement, à ce qui se passe lorsque nous pensons dans la pensée ou dans les émotions. C'est un manque de présence attentive, de présence ouverte aussi, peut-on dire, à la pensée et aux émotions, aux passions qui nous assujettissent à celles-ci et qui nous font, dans cet assujettissement, finalement souffrir. C'est en ne comprenant pas la vacuité de l'esprit, ni celle de ses productions, c'est en ne comprenant pas la vacuité du sujet et de ses objets, les pensées et les émotions, qu'il se trouve que nous nous trouvons exposés aux émotions conflictuelles et que nous sommes douloureusement conditionnés par celles-ci. En Occident particulièrement, la principale source de souffrance est d'ordre mental. Les Occidentaux sont tourmentés par nombre de passions, par l'agitation et le manque de joie. En Occident, nous avons un grand confort matériel, mais la principale source de souffrance est intérieure, mentale, avec beaucoup de passion, d'avidité, une grande agitation, grande, grande agitation. Et dans celle-ci, ces passions et ces agitations, un manque de joie et de bien-être. Pour y remédier, il y a plusieurs possibilités. Le Bouddha Sakyamuni dit un jour que travailler avec les passions et les pensées est comme avoir affaire à des épines. Si la terre entière était couverte de ronces et que nous voulions nous promener, nous aurions deux possibilités. La première serait d'enlever toutes les épines de notre chemin, ce qui serait très fastidieux. La deuxième serait simplement de porter d'épaisses chaussures. De même, confrontés à nos passions, nous pourrions utiliser une méthode au coup par coup en traitant chaque situation à un niveau superficiel, ou bien nous pouvons comprendre la nature de l'esprit de ces passions, ce qui procure une protection et une liberté permettant de traiter toutes les situations sans difficulté. Donc, la pratique de la méditation est cette deuxième approche qui va nous permettre, dans la relation essentielle aux pensées, aux émotions, de nous libérer de leur assujettissement et par là même de pouvoir traiter toutes celles-ci sans difficulté. Il y a deux principales sortes de méditation. Donc maintenant, nous abordons méditation analytique et contemplative. Méditation analytique et contemplative sont complémentaires. Les deux sont utiles et importantes. La première, l'analytique, est une approche intellectuelle qui d'abord analyse, examine, puis l'examen intellectuel, l'analyse débouche ou va de pair et évolue vers une observation. Il ne s'agit plus alors de penser, mais de voir, d'observer comment c'est. Et la deuxième approche est une approche contemplative, une approche contemplative au sens d'intuitive, c'est-à-dire d'une expérience directe, immédiate, qui ne fait plus appel à la pensée et à la conception, mais qui est de l'ordre d'une observation directe et là, finalement, d'une observation qui va dépasser l'observateur et l'observé. Dans la première approche, l'analytique, nous recevons les instructions d'un enseignant, puis nous les étudions et pratiquons toutes, en réfléchissant à ce qui nous a été enseigné, en le comparant à notre expérience personnelle afin de le valider ou pas. Il s'agit d'une démarche que l'on peut dire expérimentale. On reçoit un enseignement et puis nous le considérons, nous l'analysons, nous y réfléchissons. Il y a un examen et nous le comparons avec notre expérience. Nous regardons si cela est pertinent, valide. Donc il y a cet aller-retour entre l'enseignement et l'examen de notre expérience, qui valide ou invalide l'enseignement. Nous examinons et analysons à un niveau conceptuel ce qui nous a été dit pour en reconnaître la justesse. C'est une approche très bénéfique, mais qui ne débouche pas seule sur l'expérience authentique de la nature de l'esprit. On reste dans cette première approche à un niveau intellectuel et conceptuel. Une deuxième approche est donc nécessaire, directe, intuitive, non conceptuelle, immédiate. Elle consiste à voir la nature de l'esprit, ou dit autrement, à ce que la nature de l'esprit se voit en elle-même sans recherche intellectuelle. Se voit en elle-même, que la nature de l'esprit, que la nature de la cognition, que la nature de l'esprit cognition se comprennent en elles-mêmes, dans une intelligence réflexive qui se comprend en soi. Contrairement à la recherche analytique, qui a un caractère objectivant, l'esprit se cherchant lui-même, se cherchant en lui-même, cette seconde approche contemplative consiste à demeurer en un état de pure simplicité, en lequel le fondement naturel de l'esprit se révèle de lui-même à lui-même. En un état de pure simplicité, c'est-à-dire en l'état en lequel il n'y a aucune complication conceptuelle, en un état de non-conception, l'esprit, la cognition au repos en son état naturel, celle-ci s'expérimentant en elle-même et se comprenant en elle-même, de soi en soi. Plutôt que de chercher délibérément ce qu'est l'esprit, on s'ouvre ainsi à la révélation immédiate de sa nature. Sa nature se révèle au-delà d'une recherche délibérée et objectivante. Au-delà d'une recherche duelle, sa nature se révèle dans une immédiateté non dualiste. Il n'y a alors personne qui cherche, ni rien qui soit cherché. Il n'y a ni sujet ni objet, mais simplement un état d'intelligence immédiat en lequel la nature de l'esprit se dévoile, en lequel la nature de l'esprit se comprend. À ce niveau, nous n'observons plus l'esprit comme durant la méditation analytique, mais le voyons sans regarder et le comprenons sans réfléchir. Il n'y a plus d'observateur observant l'esprit comme quelque chose d'autre, mais dans cette méditation analytique et sa dimension essentielle, l'esprit se voit et se comprend sans réflexion, sans conception, sur un mode réflexif. Il se comprend, ça se comprend en soi, de soi, ainsi. Une petite pause. Nous abordons maintenant Shamatha Vipassana et Mahamudra. Donc, Shamatha est plus particulièrement la stabilité de l'esprit, la stabilité de la pensée, la stabilité de l'intelligence et Vipassana, l'intelligence elle-même. Donc, il y a la compréhension, Vipassana, et la stabilité shamatha. Shamatha et vipassana, shamatha rester tranquille, stable, vipassana voir clairement la nature profonde. Les deux ont des niveaux divers et multiples. Leur niveau le plus profond se trouve dans Mahamudra. La grande union, qui est la pratique la plus essentielle et fondamentale de shamatha et vipassana, le shamatha vipassana non dualiste. Dans l'approche habituelle de la méditation, vient en premier lieu la pratique dite de la tranquillité de l'esprit, de rester tranquille, littéralement. Shamatha en sanskrit, shine en tibétain. Elle apprend à rester tranquille, à laisser l'esprit dans un état où s'apaisent les pensées et les passions. En restant tranquille, vient un apaisement naturel. Elle permet, cette pratique de shamatha, de laisser son esprit posé, sans distraction, paisible et tranquille. Rester l'esprit posé, quel que soit ce sur quoi ou en quoi il se pose, cette stabilité, et de rester ainsi tranquille, stable. Puis vient la méditation de la clairvision, Vipassana, qui amène l'esprit à reconnaître sa propre nature, à comprendre dans l'expérience directe sa vacuité, sa clarté et ses capacités illimitées, ses qualités, intelligence illimitée. Dans Vipassana, l'esprit se reconnaît alors lui-même et accède finalement à l'expérience de Mahamudra, la grande union. Non dualiste. La grande union non dualiste ou absolue non dualiste. Il existe en fait différentes approches de shamatha et de vipassana. Le niveau ordinaire et le niveau spécial de Mahamudra est l'ultime forme de vipassana. Prenons un exemple. Dans un premier temps, la pratique de shamatha stabilise l'esprit habituellement agité par ses pensées et ses émotions. En restant tranquille, l'agitation s'apaise d'elle-même. L'exemple de l'océan est parlant. L'esprit peut se comparer à l'océan dans la tempête, pensée et émotion étant ces vagues, des vagues, des remous, c'est l'image de l'esprit agité. Shamatha coupe court à l'énergie qui sous-tend l'agitation, qui dans l'exemple serait le vent. Donc, Shamatha suspend l'énergie, le vent qui provoque l'agitation et ses remous. Shamatha, restez tranquille, coupe ou suspend le vent de l'agitation. Il ne s'agit pas d'apaiser, d'essayer de calmer ou de, encore pire, détruire les vagues. Simplement de couper le vent, déconnecter, suspendre et laisser alors l'agitation qui naturellement et d'elle-même va s'apaiser. Lorsque le vent cesse, l'océan s'apaise. En l'absence de stimulation, l'esprit agité se tranquillise. L'agitation de l'esprit est à l'origine de nos illusions et de nos conditionnements douloureux. Et il est nécessaire d'apprendre à la laisser s'apaiser. Les progrès de Shamatha introduisent l'esprit à un état de clarté, de repos et de paix, qui est aussi un état de félicité. Donc, cet apaisement amène une clarté. L'eau qui n'est pas agitée est naturellement limpide. L'esprit qui n'est pas agité est naturellement clair. Et cette clarté, la qualité de cette clarté est bien-être, félicité. La pratique de Vipassana permet ensuite de reconnaître la nature même de l'esprit. Dans Vipassana, la clarté de l'esprit vient à se comprendre en elle-même, à se voir clairement en soi. Le repos de l'esprit est comparable à celui de l'océan, et la vision de sa nature à la réflexion de la lune dans ses eaux. Nous abordons ici une nouvelle métaphore, celle de la lune se reflétant sur l'océan. La lune est comme la nature de l'esprit et l'océan est comme l'esprit. Si l'océan est agité, la lune ne peut pas s'y refléter clairement. Si l'océan est calme, étale, il est un miroir parfait en laquelle la lune se reflète claire et stable. Sur l'océan agité par des vagues, la lune ne peut être vue clairement, alors que si l'océan est étale, elle se reflète avec précision. Lorsque l'esprit arrive à un état de repos complet, comme l'océan étale, sa nature profonde peut se révéler, comme la lune peut s'y voir précisément. Le repos de l'esprit correspondant à l'océan correspond à Shamatha et l'expérience de sa nature à Vipassana. Un autre exemple, une autre métaphore illustrant la complémentarité de Shamatha et de Vipassana, compare maintenant l'océan de l'esprit à des eaux troubles, opacifiées par l'agitation des pensées et des émotions, qui sont comme des boues en suspension. Donc, notre esprit habituel, comme une eau trouble, une eau avec de la boue, de l'argile en suspension. La pratique de Shamatha arrête l'agitation de l'esprit. De même que l'eau immobile se décante et devient limpide, l'esprit sans agitation devient clair et transparent. Cette image que nous évoquions tout à l'heure. Cette transparence de l'esprit permet de voir son fond, comme il devient possible de discerner les profondeurs de l'océan à travers des eaux claires. Donc, dans cette métaphore, le repos qui permet la décantation est shamatha, et l'eau limpide et claire qui permet de voir dans les profondeurs est vipassana. La pratique de shamatha est ainsi un préliminaire nécessaire à celle de vipassana. La méditation silencieuse, sans forme et sans objet, est l'aspect essentiel de shamatha. Shamatha, méditation silencieuse, sans forme et sans objet, rester tranquille en l'état naturel. Des pratiques avec des formes et des objets sont des préliminaires utiles, nécessaires pour stabiliser, pour aider la stabilisation. L'expérience d'attention pure, sans support, développe autant la tranquillité et la stabilité de l'esprit qu'une première expérience de sa nature. Attention pure, ou présence attentive et présence ouverte, sans support ni objet particulier, amène à la fois la stabilité et une première expérience de la nature de l'esprit. Mais ce n'est qu'au niveau de Vipassana, la claire vision, que sa vacuité est vraiment pleinement réalisée. Dans une expérience totalement non conceptuelle, libre de toute référence et de toute fabrication mentale. Au-delà des interrogations et des constructions mentales, cette expérience est simplement expérience directe de l'intangibilité de l'esprit, de son insubstantialité. Ce n'est pas quelque chose, quoi que ce soit. Il n'est pas quelque chose que nous puissions examiner dès le début. Alors, l'esprit n'est pas examinable, à proprement parler, dès le début, car notre pratique est d'abord inévitablement mêlée à des fabrications mentales. D'abord, un processus d'apaisement, rester tranquille, et de simplification du processus de conception. Vipassana conduit progressivement l'esprit vers l'expérience de vacuité et d'intangibilité libre de toute conception. Lorsque la pratique de shamatha vipassana devient stable, elle est l'expérience de Mahamudra. Elle nous introduit à l'expérience de Mahamudra. Pour comprendre véritablement ce dont il s'agit, il faut le découvrir par l'expérience, puis progressivement le stabiliser par la pratique. Il faut en découvrir l'expérience, vivre cette expérience, la découvrir, et ensuite non seulement faut-il l'avoir découverte, mais la stabiliser dans l'entraînement et la pratique en toutes circonstances. Une petite pause. Les deux chapitres, plus exactement sous-chapitres suivants, développe la pratique de shamatha et la pratique de vipassana, plus en détail. Donc d'abord, la pratique de shamatha. Le mot tibétain pour shamatha est shiné, il est formé de deux syllabes. Chi, qui signifie tranquille, et ne, qui a le sens de rester, demeurer. Donc, Shiné, Shamatha, est littéralement rester tranquille. Le sens du mot explique celui de la pratique, qui consiste à apprendre à l'esprit à rester au repos, entraîner l'esprit à rester tranquille, laissant tranquille les émotions et pensées qui l'agitent et le perturbent. Il y a plusieurs types de shamatha, avec ou sans support. Nous avons parlé de shamatha sans support, évoqué déjà la possibilité de support. Shamatha sans support est la pratique d'attention pure, de vigilance, présence attentive, simple vigilance. Shamatha avec un support peut prendre différents appuis. Shamatha avec support peut consister à laisser l'esprit, l'expérience posée sur un objet visuel, auditif ou sur un objet sensoriel, quel qu'il soit. Mais le support qui présente le plus d'avantages est généralement la respiration. Donc, la pratique de shamatha, se développe généralement et principalement basée sur l'attention au souffle, la présence au souffle, la présence à la respiration. La tranquillité de l'esprit seul n'est pas la pratique juste de shamatha. Il ne s'agit pas juste de rester tranquille, immobile. En effet, la qualité du repos de l'esprit peut beaucoup varier. Elle peut être très grossière, moyenne ou excellente. Son niveau très grossier est comparable à l'état d'animaux comme les marmottes qui hibernent l'hiver et restent dans leur terrier, en une sorte de léthargie. S'il s'agissait juste de rester tranquille, que l'esprit soit immobile, les marmottes qui hibernent, les ours qui hibernent, ou un simple état de léthargie, léthargie stupide, pourrait être considéré comme un shamatha. Donc, pas du tout, attention, il ne s'agit pas de cette immobilité léthargique, d'hibernation, qui manque de clarté, qui manque d'intelligence. Il ne manque, alors, les marmottes ou les ours, ils ne mangent pas, n'urinent pas, ne bougent pas et n'ont aucun besoin. Leur corps peut rester ainsi sans trouble mental ou émotionnel pendant environ 6 mois. Il y a même des personnes qui restent dans des états comme ça, presque cataleptiques, pendant très longtemps. Ce n'est évidemment pas ce type de tranquillité que nous aspirons. Dans la méditation de shamatha, la tranquillité est un état dans lequel l'esprit n'est pas en conflit avec les pensées. Il n'est pas perturbé par celle-ci et reste très clair et lucide. Donc, il ne s'agit même pas particulièrement d'éliminer du tout les pensées ou les émotions, mais l'état de tranquillité est dans l'expérience juste des pensées et des émotions, sans interférence, sans fabrication, restant en un état très clair et très lucide, une lucidité ouverte. Si l'esprit manque de clarté, il part en un état d'opacité, de torpeur, voire de somnolence, et la méditation juste est perdue. Et à la limite, cette somnolence peut devenir hibernation. L'esprit ne doit être ni trop tendu, car alors il est agité, la tension provoque de l'agitation, ni trop détendu, car alors il risque de somnoler et de s'endormir. Une question de tension juste, d'attention, détendue et en même temps claire et lucide. Et ici nous avons une histoire célèbre qui est dont le titre est Méditer comme la corde de Vina. Ananda, cousin et célèbre disciple du Bouddha Sakyamuni, enseignait la méditation à un joueur de Vina. Une Vina est une sorte de mandoline. Ce joueur était toujours trop tendu et agité, ou trop détendu et somnolent. Un jour, il en parla au Bouddha Sakyamuni, qui lui dit. Alors, c'est le Bouddha qui invita le joueur, Nanda. Toi qui es un grand joueur, dis-moi comment doit être la corde de ta vina pour donner le son juste. Pour vibrer harmonieusement, elle doit avoir la tension juste. Eh bien, lui dit-il, il en va de même pour ton esprit. Pour exercer la vigilance juste, la présence juste, il ne doit être ni trop tendu, ni trop détendu. Juste dans la tension harmonieuse, vif, lucide, clair et relaxé. Lorsque la pratique de shamatha s'approfondit, différentes expériences spirituelles apparaissent. L'on distingue particulièrement des expériences de bien-être, de félicité, des expériences de clarté et des expériences d'absence de pensée. Ce sont des signes qui indiquent que la pratique évolue bien. Mais il est essentiel de ne pas les rechercher, car ces signes pour ces expériences viennent naturellement. La tentative de les produire, de les rechercher, serait même contre-productive. Et si de telles expériences apparaissent, il s'agit de ne pas s'y attacher, ni même d'essayer de les reproduire. Si l'esprit s'attache au bonheur provenant de la pratique de shamatha, il s'engage vers des états de conscience supérieurs, certes, mais toujours samsariques, qui se nomment les états divins du monde des passions. S'il s'attache à des états de clarté ou de lucidité, il prend naissance vers des états de conscience divine dits de la forme subtile. Et enfin, s'il s'attachait aux états dépourvus de pensées et de concepts, il entrerait dans les états de conscience très subtils que l'on nomme ceux des états divins sans forme. Toutes ces absorptions méditatives, bien qu'extrêmement élevées et subtiles, ne conduisent pas à la véritable libération. Et il faut faire très attention à ne pas s'attacher à ces états qui font tous encore partie du samsara, c'est-à-dire de la conscience duelle. La véritable délivrance ne peut être obtenue que par la forme la plus élevée de shamatha associée à l'expérience de vipassana, l'esprit restant tranquille en l'expérience de sa nature de clarté vide. L'esprit restant tranquille en sa clarté naturelle qui, reposant en elle-même, qui se comprend en elle-même, en une expérience non duelle. À ce point, nous avons ce qui est intitulé un aperçu pratique. Nous pouvons méditer chaque fois que nous en avons le temps. Et il est important d'apprendre à méditer régulièrement, quotidiennement, avec aussi des rappels pendant les moments de la journée et finalement à chaque instant. Mais nous pouvons méditer et il est important de s'entraîner chaque fois que nous avons le temps. Le matin est propice, car l'esprit n'a pas encore été agité par les diverses activités de la journée. Notre corps également est reposé. Mais le moment, somme toute, a relativement peu d'importance. Et en fait, nous pouvons méditer à n'importe quelle occasion. Pour que la pratique soit fructueuse, il est important qu'elle soit assidue et la plus régulière possible. Donc, nous pouvons méditer à n'importe quelle occasion, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'entraîner et d'apprendre à être dans la présence attentive et la présence ouverte de shamatha vipassana à chaque instant et en toutes circonstances. Pour pratiquer la méditation en général et shamatha vipassana en particulier, la position du corps apporte une aide très importante, car l'esprit et le corps sont étroitement liés et interdépendants. La posture facilite et favorise la méditation, bien qu'elle ne soit pas absolument indispensable et que l'on apprenne somme toute à méditer en n'importe quelle position et en n'importe quelle circonstance. Finalement, il est possible de méditer dans quelque position que ce soit. Pourtant, elle est particulièrement importante, cette position, lorsque l'on débute. Une bonne posture physique favorise un positionnement juste de l'esprit. Dans le corps, il y a différents canaux subtils où il y a tout un schéma corporel et un schéma, un réseau d'énergie, de conscience qui circulent dans tout notre corps, dans ce qu'on appelle des canaux subtils, dans lesquels circulent les souffles, les énergies subtiles qui animent la conscience dans tous ses aspects avec nos pensées et nos émotions. Dans une posture droite, ces canaux sont également droits et les souffles peuvent y circuler librement. Ils s'équilibrent alors et l'esprit vient naturellement en un état d'équilibre et de repos. Pour commencer, nous nous tenons donc droit, dans une position digne et détendue. Les Tibétains utilisent la posture dite du Vajrasana, les jambes croisées, comme le fit le Bouddha Sakyamuni. Mais les Occidentaux ont les moyens de s'asseoir sur des chaises, et de ce fait, ils peuvent s'offrir le luxe de prendre la position de Maitreya, le futur Bouddha. On peut méditer sur des chaises, fauteuils même, mais toujours confortable et dans une position digne. Nous laissons ensuite notre esprit au repos, ouvert et sans contrainte, sans crispation ni distraction, et nous demeurons attentive à l'esprit tel qu'il est. Et nous demeurons ainsi au repos dans une présence attentive à ce qui est tel que c'est. Certaines personnes arriveraient bien peut-être à laisser l'esprit au repos, mais dans un état inerte, opaque et proche du sommeil. C'est là un état de somnolence ou de stupeur qui n'est pas du tout l'état juste de shamatha. Nous en avons parlé précédemment. Il est essentiel que l'esprit reste lucide, attentif, vigile. Dans un état de repos qui se développe spontanément, qui arrive naturellement, autrement dit, sans contrainte et sans fabrication. Cette pratique peut paraître extrêmement simple, et elle l'est de fait, mais n'ayant pas l'habitude de rester ainsi dans cette simplicité tranquille, ayant l'esprit, ayant toujours l'habitude, la tendance à suivre ses pensées, fait qu'en réalité, c'est très difficile. Et il est nécessaire, important, de s'entraîner à cette pratique, de se familiariser avec celle-ci. Et c'est ainsi que petit à petit, l'on peut apprendre à rester tranquille et à découvrir l'état de repos correct. Dans la pratique de shamatha, il est possible, comme nous l'avons dit, de se servir de support pour stabiliser l'esprit. Parmi ceux-ci, le plus fréquemment utilisé est le souffle. Nous portons alors notre attention au souffle. Nous entrons dans une présence attentive au souffle. Nous respirons normalement par les narines, conscients du fait que nous sommes en train de respirer, dans la présence au souffle, attention au souffle, pleinement attentif et vigilance à ce qui se passe, à l'expérience de l'instant, sans nous dire en pensée « je respire doucement » ou « je respire fortement » ou « ma respiration est courte ou longue ». Il ne s'agit pas de penser au souffle, mais de le sentir, de le vivre. Sentir plutôt que penser. Nous sommes seulement présents, présence attentive au souffle, et nous laissons l'esprit absorbé en cette expérience sans s'en distraire. Le point important n'est pas de nous dire que nous sommes en train d'inspirer ou d'expirer, mais seulement de ne faire qu'un avec le souffle, de faire corps avec le souffle. Ça respire et l'on fait corps avec cette sensation de respiration naturelle, sans s'en distraire. Chaque fois que nous quittons cette présence attentive au souffle, c'est ce que l'on nomme une distraction. Il s'agit alors de revenir immédiatement à la présence au souffle. Cette aptitude à revenir au souffle et ainsi à se souvenir de la méditation et le rappel, le retour à la présence attentive chaque fois qu'une distraction nous a tiré, nous a distrait hors de cette présence. L'attention, la présence attentive et le rappel qui nous y ramène sont les deux éléments essentiels de la pratique de shamatha. Quand nous pratiquons ainsi, les pensées s'épuisent graduellement et naturellement. Et les différents signes caractéristiques des étapes successives de la progression apparaissent. Ceux d'entre vous qui auront l'occasion de méditer, de pratiquer un shamatha vipassana ainsi, pourront en parler avec un guide compétent, un maître de méditation, un lama. On distingue plus en détail dans l'approche, dans la pratique de shamatha, ce que l'on nomme les 9 niveaux de repos de l'esprit. Ce sont 9 étapes parcourues par l'esprit qui se stabilisent progressivement. Elles sont illustrées dans une présentation traditionnelle qui se nomme le sentier de shamatha. Nous le verrons dans une prochaine session. Une petite pause. Restant justement l'esprit au repos, en restant tranquille, clair, ouvert, en un état de repos et d'aise naturelle. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Om Aum.